Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la vie et l'œuvre de la photographe et artiste peintre Dora Maar, un documentaire proposé par Émilie Chaudet, Christine Robert et Marie-Laure Ciboulet. Dora Maar est née Théodora Markovitch le 22 novembre 1907 à Paris et nous quitte à l'âge de 90 ans le 16 juillet 1997. Tout le monde la connaissait sans la connaître. C'est au moment où Picasso traverse une période sèche qu'elle entre dans sa vie. Elle ne sera pas simplement une compagne ou un simple modèle, elle sera une inspiratrice. Et ce n'est pas une jeune fille fragile et démunie que Picasso rencontre grâce à Paul Éluard à la terrasse des Deux Magots, mais une femme au caractère déjà bien trempé et célèbre. Picasso va la représenter dans de multiples tableaux, comme La femme qui pleure, La femme couchée avec un livre, ou encore dans Femme se coiffant, le dernier tableau avant sa rupture avec l'auteur de Guernica.
Je marche seule dans un vaste paysage. Il fait beau, mais il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas d'heure. Depuis longtemps, plus un ami, plus un passant. Je marche seule, je parle seule.
J'ai eu un peu les idées reçues sur elle. C'est-à-dire, c'est une femme ruinée, victime de Picasso. C'était une pauvre femme qui n'a pas pu survivre Picasso. Et c'est la femme qui pleure. Et je trouve ça très faux et basique. Parce que plus que je connais, plus que j'apprends, c'était vraiment quelqu'un intéressant, profond, qui continue à travailler comme artiste. Elle mérite d'être plus étudiée.
Dora Maar, 1907-1997, vers la lumière.
Alors, elle a des yeux magnifiques. Si on lit tout ce qui est écrit sur elle, ça passe du vert au bleu, au marron clair. Donc, je pense qu'elle avait des yeux comme certaines personnes qui changeaient avec la lumière.
Émilie Chaudet, Christine Robert, Olivia Branger.
Nous sommes sur le petit square qui est à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés. Je crois que c'est le square Prache. On est sur un banc et on regarde le buste de Dora Maar qui est posé ici. C'est Picasso qui avait fait ce buste et qui a souhaité qu'il représente cet hommage à Apollinaire.
Brigitte Benkemoun, journaliste, écrivaine.
Il est assez massif, il est assez rond. Elle a pas du tout ces formes anguleuses qu'il a pu lui donner quand elle était la femme qui pleure dans ses tableaux. Elle est au contraire presque un peu bouffie. Visage ovale très régulier, avec une mâchoire un peu massive. Cocteau est le seul à avoir eu une description assez terrible de son visage. Il l'a décrit avec des yeux de singe, admirable cependant, disait-il. Ce qui est une vacherie absolue, mais globalement, tout le monde s'accorde à la décrire comme une femme très belle et très charismatique.
Alors Brigitte Benkemoun, Dora Maar, elle est arrivée jusqu'à vous un peu par hasard.
Oui, elle m'est tombée dessus. Elle m'est tombée dessus, c'est vraiment le cas de le dire. Mon mari perd son agenda. Et c'était un petit agenda Hermès tout petit. Et Hermès ne fait plus le même dans le même cuir. Donc ça le rendait dingue. Et je lui dis, à ce moment-là, regarde sur eBay, tu vas peut-être en trouver un qui ressemble. Il en trouve un qui est quasiment le même. Il l'achète et quand le paquet arrive, c'est moi qui l'ai réceptionné. Donc j'ai voulu vérifier si c'était bien le bon. Et là, je vois qu'ils ont oublié un tout petit répertoire à l'intérieur qui est resté glissé dans la poche intérieure. Évidemment, je l'ai ouvert et il m'a fallu quand même 3-4 pages pour percuter. C'est à la page C, en voyant Cocteau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis là, j'ai commencé à feuilleter de façon un peu plus frénétique. Et je les ai tous vus, Breton, Aragon, Brassailles, Braque, Giacometti, Chagall. J'ai découvert que l'un des noms, c'était architecte de Ménherbes. Donc j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait vécu à Ménherbes. Comme je savais que c'était une peintre, parce qu'il y avait Henri Entoileur, je me suis dit, c'est une peintre, elle a vécu en Ménherbes. Je savais que c'était une femme, parce qu'il y avait coiffeuse. Puis finalement, j'ai fini par découvrir que c'était le carnet de Dora Maar que j'avais entre les mains.
Vous avez rencontré Dora Maar d'une manière assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Oui, c'était un peu rocambolesque parce que moi, Bon, je suis espagnole, j'habite Barcelone.
Victoria Combalia, historienne de l'art, biographe de Dora Maar.
Mais j'étais à Paris en 1994. Un peu avant, j'avais rencontré Marcel Fleiss, le grand expert en surréalisme et grand marchand. Et on déjeunait ensemble en Normandie. Et là, le mot Dora Maar et sa figure est entré dans la conversation. Alors je lui ai demandé, mais comment, elle n'est pas morte, elle n'est pas dans un asile psychiatrique, parce que tous les étudiants de Picasso, nous avons lu ça. Alors Marcel me dit, non, non, elle n'est pas morte, je te donne le téléphone, mais elle raccroche le téléphone à tout le monde. Alors, comme moi, je suis têtue et un peu passionnée aussi, je lui ai dit, bon, je vais essayer. Alors je l'appelle, elle ne raccroche pas. Elle était très gentille, il faut dire, et j'étais étonnée d'emblée par sa voix, parce que c'était une voix légendaire, qu'on avait dit comme un oiseau de paradis, une voix gutturale et bien timbrée et très cultivée, disons, et élégante, ça serait ça le mot. Et je lui disais, mais Madame Maar, j'habite dans votre quartier, je voudrais vous voir, parce que ça c'est un interview, mais on pourrait faire une exposition. Et alors elle me disait, non, non, parce que je suis vieille et malade. Elle ne voulait voir personne. Et bon, moi, finalement, j'étais déjà tellement contente qu'elle me réponde au téléphone ces 4 fois, et si gentiment, avec toutes ces informations qu'elle m'a données, que c'était un peu, comment vous dire, c'était un peu comme un miracle, parce que les gens me disaient, mais comment, tu parles avec elle, mais comment ça se fait? Moi, j'étais intéressée à ses photos, surtout. Et alors, je lui ai demandé comment elle s'était formée. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était allée à l'Académie Lott, du peintre Lott, que c'était avec la Julien, la meilleure de Paris. Elle-même m'a dit, moi, j'étais très à gauche quand j'avais 25 ans, pas comme maintenant. Donc, elle disait qu'elle n'était plus à gauche, qu'elle était à droite. Il faut dire que presque tous les intellectuels jeunes des années 30 qui ont vu le crash du 29 et qui ont vu la montée du fascisme en Europe et du nazisme, ça a donné beaucoup de mouvements de gauche ou extra-gauche, et ça a donné évidemment le Front populaire en France. Alors elle a fait partie d'un groupe très intéressant quand elle était jeune avec les sœurs Clouseau, qui étaient Marianne et Marie-Rose Clouseau, les filles du conservateur du Palais Galliera, Henri Clouseau. Et là, avec elle, déjà, elle a fait partie d'une revue qui s'appelait Revue Nouvelle, mais surtout après, elle a fait partie, en 28, du groupe d'une autre revue qui s'appelait Du Cinéma. Et là, dans cette revue, elle rencontre Louis Chavance. Et Louis Chavance, c'est pas son premier amant, mais je crois que son deuxième amant, et qui dure beaucoup d'années, jusqu'en 35. Et là aussi, dans ces années-là, elle devient intime, non seulement des sœurs Clouseau, mais de Jacqueline Lamba. Jacqueline Lamba était une femme très belle, comme Dora Maar, qui avait perdu ses 2 parents, et qui était déjà depuis ses 15 ans membre du Parti communiste. Mais pas comme Dora, parce que Dora m'a dit « j'ai jamais adhéré au Parti communiste ». Elle était plus à gauche que le Parti communiste.
Ça demande réflexion.
Et réponds-moi, c'est toi réfléchi.
Moi aussi.
Ah, moi aussi.
Et c'est dans ce milieu-là qu'elle rencontre Louis Chavance. Louis Chavance qui est un passionné de cinéma. Damaris Amao, historienne de l'art, commissaire d'exposition. Et Chavance, très vite, va accompagner par exemple les amis du groupe Octobre, d'abord sur L'affaire est dans le sac, en 1932. Il va faire un film avec Pierre Prévert, un petit court-métrage qui s'appelle Monsieur Cordon. Et Dora Maar, apparemment, elle fait des photographies de plateau. C'est par l'intermédiaire de Louis Chavance qu'elle a pu couvrir ses films. Il ne faut pas oublier que Pierre Keffer, qui est son seul et premier associé pour le studio qu'ils vont tenir à Neuilly-sur-Seine, vient du cinéma. Il vient de ce même cercle de cinéphiles. Hein. C'est lui qui fonde la revue du cinéma, où va publier aussi Jacqueline Lamba, Delons. On est vraiment dans un cercle très petit de cinéphiles. Et l'une de ses commandes sur Le crime de Monsieur Lange, de Jean Renoir,
en 35, où elle va être photographe de plateau, où on retrouve le groupe Octobre dans la distribution, Marcel Duhamel, Louis Chavant, c'est pas loin. C'est vraisemblablement ce film qui va la mettre sur les pas de Picasso, puisqu'ils vont se rencontrer apparemment une première fois à l'occasion de l'avant-première, en janvier 36. Et puis, à cette occasion, Éluard va lui représenter un peu plus tard, et puis l'idylle qu'on connaît va commencer.
Au jour, le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile, moi, j'ai jamais vu. Pourtant, la nuit, je te règne dans les quartiers perdus. Jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis.
Mais disons que dans ce petit cercle de la revue du cinéma, je suis sûre que déjà avec les idées de Jacqueline Lamba et de Louis Chavance, elle a commencé à penser vraiment à gauche. Et après, en 33, elle fait la connaissance de Michel Leiris, dont elle devient très amie, et de Paul Éluard. Et nous croyons tous qu'elle est entrée vraiment dans le cercle surréaliste à partir de ces deux amitiés. C'est elle qui présente Jacqueline Lamba aux surréalistes, et c'est par elle, elle m'a dit, que Jacqueline et Breton se sont connus et se sont mariés. Et donc, elle, en 34, on ne sait pas si elle va à la manifestation antifasciste de février, mais elle appelle à la lutte, qui est un manifeste très antifasciste, et en 34, elle devient membre du groupe Contre-Attaque. Contre-Attaque, c'était un groupe formé par surtout Bataille, Georges Bataille, et aussi André Breton, qui était très très à gauche. C'était très radical parce qu'il parle par exemple de la dictature du peuple armé, et ils étaient très antinationalistes. Ils parlent de violence impérative de ce peuple, et non seulement elle signe, elle va aux meetings, aux réunions, mais elle est aussi comme une sorte de porte-parole de ce groupe, parce qu'il y a un moment où dans un des communiqués ils disent: si vous voulez des informations sur Contre-Attaque, il faut appeler Madame Doramar entre une heure et des heures chaque jour. Donc, elle était plus qu'une secrétaire. Et Doramar, je crois qu'elle était très de gauche aussi dans sa vision du peuple et dans sa vision des déshérités, parce que sa production de ce qu'on appelle la photo de rue est extraordinaire.
La photographie de rue, c'est clairement une manière de se positionner par rapport à ces questions politiques et sociales. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, descendre dans la rue, regarder les petits métiers, regarder les gens de classe populaire, c'est un geste politique. Quand Doramar commence à descendre dans la rue et puis quitter l'environnement assez confiné du studio, très glamour, de ses premières commandes de mode, on est en 33, on a un moment où Doramar en effet s'affirme sur le plan professionnel en tant que photographe de commandes, commandes dans la mode, dans l'illustration. Au moment où elle descend dans la rue, c'est concomitant aussi à une affirmation plus personnelle, à un développement de son intérêt ou de ses questionnements politiques et sociaux. Et quand elle descend en effet dans la rue, c'est pour chercher quelque chose de plus spontané, de plus brut, d'un rapport plus direct avec les gens. Et ça, quand on le met dans le contexte, est assez singulier, parce qu'il faut s'imaginer d'où elle vient. C'est quand même une jeune fille de bonne famille qui a fait ses études dans le 16e. Et on le voit un peu dans ses premières photos de Paris. Quand elle photographie la zone, il y a de la distance, elle est toujours derrière le trottoir. Et puis on sent qu'elle n'ose pas trop s'approcher, et on sent que c'est ses premières photos, mais assez vite quand même, quand on voit les photos qu'elle va faire à Londres ou en Espagne, elle va aller plus proche de la figure humaine. Il y a une plus grande assurance qui se lit et qui montre qu'elle s'est un peu débarrassée de ses peurs par rapport à des gens qui ne sont pas forcément de la même classe qu'elle, qu'elle n'a pas l'habitude de côtoyer.
Elle regarde et elle capte les peuples, mais surtout les vieilles, les mères avec les enfants, les gens très pauvres qui demandent les aumônes, la charité, les gens qui dorment dans la rue, avec une vision que moi je dis très humaine, parce que elle est très empathique. Elle n'est pas une vision un peu brutale ou directe comme celle de Brassailles ou Cartier-Bresson. Elle semble avoir une parfaite sympathie pour ces gens qui n'ont rien. Et là, c'est où se voit mieux sa vision du monde de ces années-là.
Elle est toujours un petit peu en contre-plongée, hein, qui laisse comme ça la figure avoir de la place. Même quand elle est avec des enfants, elle essaye d'être à la même hauteur. Peut-être même chose avec les mendiants. C'est l'occasion de regarder si ça se vérifie, ma théorie. Ouais, même avec les mendiants, elle se baisse, elle est quasiment au même niveau. Elle n'est pas dans des attitudes de surplomb qui peuvent un peu à chaque fois un peu écraser, un peu donner un sentiment un peu de voyeurisme à la Ouija.
Vous avez parlé d'empathie, mais il y a aussi une forme d'humour. Par exemple, cette rangée d'hommes à Londres endormis sur un banc. J'ai l'impression qu'elle a pu sourire en prenant cette photo. Il y a cette photo aussi sur un bateau, il me semble, où on voit un homme et une femme assis l'un à côté de l'autre qui s'appelle Pickpocket. C'est ouais. Ça. Ce sont des traits de Dora Maar, l'empathie, la proximité, la volonté de se mettre au même niveau que l'autre, l'humour. Ce sont des traits qui n'apparaissent que dans ces photos. Là précisément, et qui n'ont pas l'habitude d'être mises en valeur quand on parle de la personnalité de Dora Maar.
Oui, c'est vrai, et à l'époque, même parce que beaucoup de photographies de rue ont été exposées à l'époque, hein, notamment la série de photographies prises à Londres en 1934 a été prise, et puis la presse, la critique, ce qu'elle en retenait, c'était le caractère insolite, le caractère humoristique, donc cette manière de croquer un peu la société, c'est quelque chose qui a été vu. Qui était compris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toute une couche de lecture sur Dora Maar, c'est plutôt la femme fatale, la femme tragique, qui fait que je pense qu'on manque une grande partie de sa personnalité. Et c'est vrai que les photographies de rue sont aujourd'hui peut-être les seuls témoignages d'un aspect assez plus complexe, peut-être plus solaire aussi de Dora Maar par rapport à la perception qu'on peut avoir aujourd'hui.
Celle qu'elle est avant Picasso est une femme assez incroyable, qui fait des choses qu'aucune femme ne fait pour l'époque.
Brigitte Benkemoun.
On parlait tout à l'heure de ces groupes d'extrême gauche auxquels elle participe, Octobre, Contre-attaque. Elles sont 3-4 au milieu de 50 hommes. Il faut un cul au monstre pour prendre la parole au milieu des surréalistes quand ils sont dans les cafés de la Place Blanche. Et elle a peur de rien. Elle prend sa vie en main. Elle part en reportage toute seule en Espagne, en Angleterre, pour aller photographier la misère. Et en effet, elle n'a peur de rien. Un jour, elle est avec Louis Chavance, ils sont invités à Val d'Isère. Et elle décide, elle apprend qu'il y a une mine à ciel ouvert tout en haut de la montagne. Elle n'a jamais fait de ski, elle n'a jamais marché dans la neige. Elle arrive à convaincre tous les garçons de l'amener là-haut. Évidemment, elle se casse la figure, elle tombe. Ils sont obligés de la porter à l'aller et au retour. Et arrivée là-haut, elle fait ses photos et elle les laisse sidérer parce qu'elle les impressionne par son côté courageuse, déterminée. C'est à ce moment-là qu'il l'appelle la Cabochard. C'est son premier petit ami, Louis Chavance. On trouve dans les archives de Dora un poème qu'il lui écrit et il la décrit comme une folle nerveuse. Brassailles la décrit comme quelqu'un qui est sujette aux orages et aux colères. Donc, c'est quand même pas quelqu'un de profondément équilibré qui, à cause de Picasso, va devenir une déprimée, qui va être internée. C'est une personnalité particulière qui va en effet subir le contre-coup d'une vie avec Picasso, puis d'une séparation avec Picasso.
Ce plongeon dans ce carnet d'adresses, vous en avez fait un livre qui vient de paraître, Je suis le carnet de Dora Maar. Et il se trouve qu'on apprend beaucoup plus de choses, en fait, parfois, sur les gens qui ont entouré Dora Maar que même sur elle, en fait. Vous parlez de Cocteau, mais on pourrait aussi parler d'une femme beaucoup moins connue du grand public aujourd'hui, qui est Jacqueline Lamba, qui a été une de ses grandes amies et qui a une importance réelle dans sa vie.
Alors Jacqueline Lamba, moi, c'est vraiment un de mes personnages préférés du livre. Elle est fantasque, elle est libre, elle est culottée, elle peut être violente aussi, comme Dora Maar, mais... Elle est restée extrêmement intègre, c'est une femme très belle, qui décide, alors qu'elle est toute jeune, de rencontrer Breton, parce qu'elle est fascinée par ce qu'il écrit, elle est fascinée, et qui va quitter Breton parce qu'elle ne supporte pas les renoncements, elle se vit comme une peintre, elle se considère comme une peintre et pas comme une muse. Il faut se placer aussi dans l'époque, être une femme avant la Deuxième Guerre mondiale, une femme peintre, c'est extrêmement difficile, on les tolère quand elles sont belles, mais en même temps, l'artiste c'est l'homme. On les réduit si souvent au rôle de muse, donc Jacqueline Lamba s'est battue contre ça.
C'est une problématique qu'elle partage avec Dora Maar.
Complètement. Mais il y a chez Dora une forme d'acceptation de son maître, qui est Picasso, qu'on ne trouve pas chez Jacqueline Lamba. Et en m'intéressant un peu plus à ce carnet, j'ai découvert que le numéro de téléphone Lamba n'était pas celui de Jacqueline. Parce qu'à l'époque, en 1951, l'année de mon carnet d'adresse, Jacqueline vit aux États-Unis. Donc je me suis dit, qui est cette Lamba qui habite 7 Square du Rhône? Et là, j'ai découvert que c'était Huguette, la sœur de Jacqueline Lamba. En cherchant, je découvre que dans une des lettres que Jacqueline envoie à Dora, avant de partir pour les États-Unis où elle part en exil avec Breton pendant la guerre, elle parle d'Huguette Lamba, sa sœur, et elle demande à Dora de s'en occuper parce que Huguette est enceinte. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est peut-être pour ça qu'Huguette est dans le carnet. J'ai réussi à retrouver une dame qui a été la confidente d'Huguette Lamba. Et donc en effet, Huguette Lamba est tombée enceinte pendant la guerre. Elle accouche d'une petite fille et c'est Dora qui va s'occuper de la sœur de son amie pendant sa grossesse. Il faut imaginer ce que c'est qu'une grossesse pour une femme seule à Paris, occupée. Elle l'accompagne aussi le jour de l'accouchement, et quand la petite fille naît, Dora demande à être sa marraine, parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle est stérile, elle le sait depuis quelques mois, et c'est sans doute un énorme problème dans sa relation avec Picasso. Et donc elle devient la marraine de l'enfant d'Huguette, qui malheureusement ne va vivre que 5 mois, et qui meurt d'une bronchite, parce que c'est Paris, parce qu'il fait froid, parce que c'est dur pour les adultes, c'est encore plus dur pour les nourrissons.
Nous sommes en quelle année ?
On est en 42 quand l'enfant meurt. Donc je pense que c'est une blessure pour Dora. Elle a ce fantasme de l'enfant et elle a surtout le fantasme que si elle tombe enceinte de Picasso, elle pourra le retenir. Il a quand même un rapport très particulier avec les femmes. De savoir qu'elle est stérile, il le lui reproche régulièrement, publiquement, amèrement. Et elle se dit, si au moins je porte un enfant de lui, il va me considérer autrement, il va me respecter davantage, il va redevenir dépendant de moi comme au début de leur relation.
Et donc oui, c'est cette perte de l'enfant en plus coïncide avec aussi la perte de sa mère
peu de temps après,
c'est ça.
Oui, peu de
une
temps
autre blessure.
Peu de temps après la disparition de cette petite Brigitte Lamba, la propre mère de Dora disparaît. Donc je crois que coup sur coup, c'est quelque chose qui l'a profondément meurtrie. Mais vraiment, je pense qu'il faut pas négliger le fait qu'elle est déjà fragile. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, parce que à force de la présenter comme une femme qui finit folle, antisémite, une illuminée, qui perd les pédales quand Picasso la quitte, on oublie quand même quelque chose de très important, c'est que c'est une femme extrêmement intelligente. Si elle aimante les gens autour d'elle, c'est pas uniquement parce qu'elle est belle, et parce qu'elle est talentueuse comme photographe, c'est parce que c'est quelqu'un de très 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 brillant, qui fascine par son intelligence. Paul Éluard, il aime beaucoup cette femme. Il est touché, il y a plusieurs poèmes qu'il lui envoie, ma petite Dora, mon idéal de femme. Même au moment où les gens commencent à se détourner d'elle parce qu'elle n'est plus la maîtresse officielle, il continue à retourner la voir. C'est ce qu'on découvre dans le témoignage de Pierre Dex, qui a été un des biographes de Picasso. Il continue à aller la voir, il ne la laisse pas tomber. Il a failli même se fâcher avec Picasso. parce qu'il lui reproche de la faire souffrir au moment où Picasso commence à délaisser Dora Maar pour François Gillot. Éluard lui reproche de la faire souffrir et de la rendre malheureuse. Et ils ont failli se fâcher à ce moment-là. Dora a beaucoup d'affection aussi pour Nuche, qui est la femme de Paul Éluard. Elle les a beaucoup photographiés tous les deux. Et quelques années après qu'elle ait rompu, enfin que Picasso ait rompu plutôt, certains prétendent qu'Éluard, qui a perdu son épouse, qui est Nuche, est décédée des suites d'une hémorragie cérébrale, certains disent qu'Éluard a songé à épouser Dora. Il aurait même demandé l'autorisation de Picasso. Ça, je ne sais pas, je n'étais pas là. Il faudrait être romancière pour imaginer. Enfin, en tout cas, mon intuition, c'est que si Éluard a demandé à Dora de l'épouser, elle a sûrement dit non.
La cabocharde.
La cabocharde. Et puis surtout, elle le disait. Alors ça, c'est pas une invention. Elle l'a dit, après Picasso, il ne peut y avoir que Dieu. Il y en a d'autres qui lui ont tourné autour. Hein. Le peintre Couteau, il y a beaucoup d'hommes qui lui tournaient autour. Elle était encore belle, elle était désirable. Mais je pense qu'elle est trop orgueilleuse pour refaire sa vie, comme on dit, avec quelqu'un de moins prestigieux que Picasso. Elle aurait l'impression de déchoir, enfin, plutôt rien que moins bien.
De l'ancienne cuisine de la maison. C'était une maison qui était construite en 1801. Et ça, c'était aussi la cuisine à l'époque de Dora Maar. Elle a acheté en 1945, en fait, c'était Picasso qui l'a acheté pour elle, comme cadeau de rupture. C'est vraiment ancré dans la pierre. On est vraiment dans le roche, c'est comme une cave. Elle a vécu ici jusqu'à la fin, jusqu'à 1997.
Gwen Strauss, directrice de la maison Dora Maar à Ménerbe.
Elle a vécu d'une manière assez sauvage après. Quand Picasso a acheté la maison, c'était vraiment une maison de Provence sans vraiment être rénovée. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit. Donc elle a laissé la maison dans son jus. Et puis elle a choisi de vivre vraiment dans quelques pièces. Un peu comme une ermite, un peu comme une religieuse. Et puis, elle s'intéressait pas de tout dans les choses mondaines, banales comme ça. Elle était vraiment dans son art, dans son travail. C'était un peu juste un endroit où elle travaillait, mais travaillait dur. On voyait que c'était vraiment une sorte une Provence rude avec le Mistral, avec le vent, avec le soleil. Elle a vécu comme ça. On a eu ici, comme artiste en résidence, quelqu'un qui était un historien de cuisine. Et il a trouvé un livre de cuisine de surréaliste. Et il y avait une recette de Dora Maar. Donc on a dit, oh, on va essayer ça. C'était le thym bouilli avec un oignon, un œuf cru. Et je pense que c'est tout. C'était vraiment dégueulasse. C'était immonde. On ne peut pas manger. C'était tellement amer et dur. Et on dit, finalement, c'était une femme qui ne donnait pas de cadeaux. Quoi. Elle n'était pas indulgente à soi-même. Ça, c'est Jérôme, je pense. Attends, je la sors.
Ouais.
Salut, ça va?
Ouais. Bonjour, Jérôme de Staël. Enchanté. Bonjour.
Jérôme de Staël, photographe.
Cette cuisine-là, vous l'avez photographiée juste après la mort de Dora Maar?
En 97, oui. Et moi, quand je suis rentré là, après des années, j'ai retrouvé la même image que j'avais quand j'étais petit, c'est-à-dire les murs dégoulinants d'eau, vert de gris. Bon, moi, je la connais depuis qu'on est là, c'est-à-dire en 53, 2 ans avant la mort de notre père. On n'habitait pas ici toute l'année et donc on était là que pour les vacances. Et c'est là qu'on la voyait passer de temps en temps. On traînait beaucoup dans le village et on voyait quand elle était là, quoi. Parce qu'il y avait une seule fenêtre qui s'ouvrait, donc on savait qu'elle était là. Et puis elle partait avec sa mobilette, elle allait souvent à la messe. C'est comme ça qu'on a appris qu'elle était complètement recluse, un peu dans une méditation religieuse. Donc enfant, comme j'étais allé à l'école ici en 58, j'étais trop petit, mais ma mère m'en a parlé après. Tous ces gens proches de l'art se rencontraient. Dorama invitait les gens à déjeuner ou à dîner, mais jamais chez elle. Elle les invitait au bistrot au Baumette. Alors ça, c'était aussi une expédition. Tout le monde partait avec sa mobilette ou sa voiture. Mais il rentrait pas dans la maison. Et après, Dorama, je pense qu'elle recevait les gens ici de temps en temps. Mais moi, je l'ai rencontrée ici deux ou trois fois quand j'avais une douzaine d'années, en accompagnant ma mère. Mais les visites étaient assez rares, hein, en fait.
Pardon, ça c'était l'atelier de Dorama, cette pièce.
Alors c'est une maison qui, à mon avis, est très bien pour les peintres parce que c'est une maison du lever du soleil, c'est-à-dire plein est là, et nord. Donc la lumière rentre quand même et permet d'avoir cette constance de lumière au lieu d'avoir un truc qui vous étouffe, quoi.
Et là, on a deux tableaux de Dorama qu'elle a fait probablement dans cet atelier. Et ça, c'est, on voit vraiment c'est le paysage d'ici, le vue exactement de la fenêtre. On voit, c'est le vaste ciel avec les couleurs vert et ocre.
Elle a trouvé, si vous voulez, dans ce qu'on voit là, exactement ce qu'il y a dehors. Vous avez le tableau dans sa propre lumière, en fait. Les mêmes nuages, on sent le souffle du vent d'est ou du mistral, et elle a très bien su montrer ça.
C'est assez fluide. Je pense que c'est l'huile ou gouache, en fait, je ne sais pas, mais c'est gestural. C'est un paysage, c'est sûr, mais très, comment dire, légère, pas trop dessinée. On voit vraiment l'esprit de le paysage, avec en arrière-plan, le montagne, le Mont Ventoux, une grosse ciel avec les nuages, et plus proche, les champs. On voit vraiment qu'elle a travaillé ici. C'est le tableau qu'elle a fait quand elle avait plus 40 ans, chose comme ça, 40-50 ans.
Donc nous sommes dans ma galerie qui se nomme La Marchande des Quatre Saisons. Donc c'est un petit espace comme vous pouvez le voir. Mais j'ai la chance d'avoir en fait un morceau du couvent des Carmes. Enfin, j'ose espérer qu'elle aurait apprécié en fait le lieu parce que donc les Carmes vivaient en recluse. Ce qu'a fait Dorama dans la deuxième partie de sa vie.
Anne Carpentier, galeriste à Arles.
Et j'ai pu rassembler cette série de dessins que l'on voit aujourd'hui. Ces dessins, elle ne les a montrés à personne. Ça qui est émouvant aussi de les voir aujourd'hui. Ils ont été en fait gardés jusqu'à sa mort, en fait, dans des cartons de dessin. Ils sont vraiment le reflet de son choix de vie, c'est-à-dire le dépouillement absolu, dépouillement extrême. Le trait peut paraître lâche parfois, très sommaire, mais là on reconnaît aisément la skyline, si je peux dire, la ligne d'horizon des Baux-de-Provence. Donc ils sont parfois très simples, très calmes. Des nuages qui passent dans le ciel. Là, on voit un mas avec, on devine, un palmier ou un cyprès dans les vignes. Et parfois, le vent se lève, jusqu'à parfois des dessins qui pourraient témoigner d'une certaine agitation contrariée, comme celui-ci au fond, où on devine un paysage très broussailleux avec un trait très nerveux, des paysages dans le vent. Et le vent, c'est Paris en Provence, où vous venez d'ailleurs un jour de Mistral. Vous comprenez que c'est pas n'importe quel vent, qui est très brutal, qui balaye tout sur son passage, qui est indifférent à ce qui se passe. Et c'est un peu comme Dorama, en fait. Je marche seule dans un vaste paysage. Il fait beau, mais il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas d'heure. Depuis longtemps, plus un ami, plus un passant. Je marche seule, je parle seule. Dans le secret de moi-même, à moi-même secret, vivant tu me fais vivre. Dans cette chambre où j'ai vécu la folie, la peur et le chagrin, c'est l'éveil simple, un jour d'été. L'exil est vaste, mais c'est l'été. Le silence en plein soleil, une enclave de paix où l'âme n'invente que le bonheur, un enfant sur la route de sa maison. Et ces poèmes, pour moi, ont la même importance que ces dessins, en tout cas cette production artistique qui est un tout. Et quand on les lit et quand on regarde les paysages, il y a une cohérence. Et quand on regarde le paysage un peu plus haut, on devine la journée de beau temps avec cette lumière du midi si particulière et ces plaines de garrigues, des alpilles, paysages si magnifiques. Cette mobilette au centre de la galerie, c'est une vieille mobilette Peugeot, toute grise, toute rouillée aujourd'hui. Il y a aussi la plaque marquée Doramar Ménerbe 84 sur le côté de la roue. Cette mobilette, elle est importante dans le sens où Doramar n'avait pas de voiture. C'est un peu le fil rouge avec le monde extérieur, Doramar. Donc elle vivait coupée du monde. Et par ce moyen, en fait, elle arpentait la Provence et le Luberon. Et j'ose croire que les dessins qui sont là faisaient partie de carnets de dessins qu'elle mettait dans les sacoches. En 84, elle avait près de 80 ans, justement. Donc c'est dingue aussi de s'imaginer cette vieille dame arpentant les collines de Ménerbe, les collines du Luberon. Ce n'est pas des terrains plats, la plupart du temps. Ça montre que, aussi, elle a une production artistique qui n'a jamais faibli. Dans ces 50 ans d'années de vie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on commence à connaître, je ne sais pas si on en saura beaucoup plus, comme elle vivait vraiment seule, coupée du monde, n'existait pour personne, sans témoin. Aujourd'hui, cette mobilette fait beaucoup parler, justement, sur la Doramar, qui avait une activité folle, qui avait, un tempérament fort. Elle vivait seule à Ménerbe. Alors, il faut y aller à Ménerbe pour comprendre. C'est un village haut perché, battu par les vents, à distance de tout, coupé du monde. Et donc, on l'imagine descendre et monter cette colline et arpenter le Luberon et la Provence. Donc, ça témoigne de la personnalité légendaire, je dirais, de Doramar. Je pense, au fond de moi, qu'elle a construit cette légende petit à petit. Elle avait conscience de qui elle était et que ça fait partie de son histoire qu'elle s'est construite aussi.
Cette exposition, Anne Carpentier, vous l'avez intitulée « Vastes horizons », du nom d'un hôtel où Picasso et Doramar ont passé plusieurs de leurs étés. C'est le nom d'une période heureuse de Doramar.
C'était les moments les plus heureux, je pense, de la vie de Doramar. Elles étaient 36, 37, 38, dans cette petite pension de Mougins, sur la hauteur de Mougins, où ils vécurent leurs premières amours. Puis ils étaient rejoints par leurs amis Éluard, Lee Miller, Manet, etc. Donc c'était un moment très d'amour et de fête. Je voulais faire une exposition de Doramar sans qu'on puisse parler de Picasso. Mais on ne peut pas, en fait. Elle avait conscience donc de l'importance de Picasso et elle entretenait cette flamme artistique du maître. C'est avec elle qu'il débattait de politique. Aussi, leur relation s'est passée dans une période très particulière, c'était la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait la montée des tensions d'abord, et après la guerre en France bien sûr, et la guerre d'Espagne, c'est Doramar qui a poussé Picasso à faire quelque chose, un acte politique. Donc ça a été Guernica, et même une fois que Guernica était en train de se faire, elle a fait quelque chose qui était très important de l'histoire de l'art, c'est qu'elle a photographié chaque étape du tableau. Elle rentrait chaque soir dans son appartement de Haute-Savoie, tirait les argentiques, et elle revenait le lendemain. Et grâce à ça, c'est la première fois qu'on voit le maître en train de créer l'évolution, ce qu'il ajoute, ce qu'il retire, ce qu'il remet. Ça, c'est Doramar, par exemple. Donc il y avait une émulation artistique, une ébullition. Jouant aussi avec leurs amis qui étaient présents. Doramar était une des meilleures amies de Lee Miller, Paul Éluard, Breton, ils étaient tous ensemble. Ça devait être un moment passionnant dans la vie de Picasso, dans la vie de Doramar. Je ne pense pas qu'il ait vécu ça avec Marie-Thérèse, ou peut-être un peu avec François Gillot qui était une artiste aussi. Jacqueline, je ne sais pas, mais avec Doramar, c'était vraiment une relation très particulière.
Il a dit, le personnage à l'extrême droite, c'est vous. La femme qui tend les bras en l'air,
oui.
C'est moi. Et la femme qui tient la torche aussi, le profil, si on veut, c'est moi. Et que représente l'oiseau? Alors, il n'a pas répondu. Ce qui est important, c'est que le taureau, c'est le peuple espagnol.
Et qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce Guernica, ce tableau le plus célèbre du monde, plus de 50 ans après?
Eh bien,
est-ce que vous, pour vous, est-ce que c'est une... Vous avez une certaine fierté à être dans ce tableau?
Oui, bien entendu. Bien entendu, il y a Marie-Thérèse que l'on reconnaît assez souvent. Et moi-même, la femme qui pleure, on me voit assez souvent dans tous ces dessins à propos de Guernica.
Allô?
C'est une peinture qui est aujourd'hui localisée
d'Amaris Amao
aux États-Unis, qui est un portrait, un autoportrait de Doramar, très serré. Quand on regarde bien, on voit qu'il est fait sur un carton de boîte de vêtements. Je ne sais plus si c'est Chanel ou si c'est Rochas. Il y a vraiment un rapport convulsif à la pratique de tous les jours. Donc, on prend de la toile, mais on peut aussi prendre un carton de biscottes, il n'y a pas de problème. Et ça, Doramar le faisait assez souvent. Donc c'est un portrait très expressionniste. Elle se dessine avec des traits très durs. On est toujours sur ces jeux de transparence qu'on voit aussi dans ces natures mortes. Donc les chairs sont délicatement soulignées par quelques rehauts de rouge, les lèvres aussi. Mais il y a ce regard qui est très triste. On ne peut pas oublier la période à laquelle il était fait, à ce moment où il y a la rupture avec Picasso, il y a ce moment de décomposition de soi, un peu comme les portraits à la Munch. Et en plus, c'est un portrait qui est dédié à un médecin à Sainte-Anne, mais pas un médecin psychanalyste, son ophtalmologue. Et le regard, vous le voyez, il y a un œil qui est plus vif, et puis l'autre qui est dissous comme ça dans la matière picturale. Donc c'est un portrait qui est très grave, qui en même temps m'alerte sur le fait qu'il ne faut pas encore ici la limiter peut-être à ce portrait-là, comme on l'a fait pendant des décennies avec la femme qui pleure. On a trop parfois peut-être envie de la cantonner à cette tristesse, à ce masque de désespérance.
Ici même, à l'endroit où on fait cette interview, j'avais posé à côté de moi une douzaine de tableaux de Doramar par terre que je venais d'acheter à un ami qui a une galerie rue des Beaux-Arts.
Marcel Fless, galeriste à Paris.
J'avais pas eu le temps de les ranger, ils étaient là quand est rentré un monsieur américain qui s'appelait Herschel Chips, et en voyant les tableaux, à un moment, il me dit, est-ce que vous permettez que je dise à Doramar qu'il y a des tableaux d'elle chez vous? Et je lui réponds spontanément, mais est-ce qu'elle est vivante? Il me dit, non seulement elle est vivante, mais elle habite à 5 minutes de votre galerie. Et ceci se passait en 1990. Le lendemain, une dame m'appelle, elle me dit, ici Doramar, monsieur Herschel Sips m'a dit que vous aviez des tableaux de moi, c'est impossible. Et je lui réponds, madame, j'ai des tableaux de vous, si vous voulez, je peux vous les montrer. Et elle me dit, oui, j'aimerais bien les voir, je vous donne rendez-vous chez moi demain à 17h. Comme c'était un peu encombrant, j'ai fait les photos des tableaux que j'avais dans ma poche, je me suis rendu rue de Savoie, j'ai sonné à Markovitch, qui était son vrai nom, et elle n'a pas répondu. J'ai ressonné une autre fois, elle n'a pas répondu. La troisième fois, il était pile 17h, elle m'a répondu, elle m'a dit, jeune homme, quand je dis 17h, c'est pas 17h moins le quart, vous pouvez rentrer au fond de la cour, au deuxième étage. Elle m'attend en dehors de l'appartement sur le palier. J'avais remarqué qu'il y avait un désordre terrible dans son appartement, que la vaisselle n'était pas lavée, elle était empilée dans la cuisine. Elle me dit, c'est pas des tableaux de moi. Alors je lui dis, bon, si c'est des faux, Il faut absolument que vous contactiez votre avocat pour qu'il les fasse saisir, comme ça je peux me faire rembourser. À ce moment-là, elle me dit, j'aime pas les avocats, montrez-les-moi quand même, physiquement. J'ai dit, on reprend rendez-vous pour le lendemain, et je lui amène tous les tableaux, et elle me reçoit toujours sur le palier. Et à ce moment-là, elle voit quand même qu'il y a des étiquettes au dos des tableaux d'une exposition qu'elle avait faite à la galerie Henriette Gomez, rue du Cirque, à Paris. À ce moment-là, elle me dit, bon, je peux pas vous dire vraiment que c'est des faux, mais je vous dis qu'ils sont volés parce que j'ai jamais été payé. Et elle me demande, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et je lui dis, j'aimerais faire une exposition avec ces tableaux, j'ai assez de tableaux pour faire une exposition. Elle me dit, bon, je vous préviens, je viendrai pas. Bien, madame. Et on a fait l'exposition. Tout le monde est venu le jour du vernissage pour essayer de la voir le 10 juillet 90. Il y a rarement eu autant de monde à un vernissage et elle n'est pas apparue. Elle ne voyait personne. Elle vivait complètement seule. Et tous les après-midi, elle allait à la paroisse du 6e, mais elle avait aucune. Elle n'avait pas d'amis, elle n'avait plus d'amis. Et elle voulait voir personne, puisqu'elle m'a dit, je ne viendrai pas à votre vernissage, puisque je veux voir personne. Ça a été une grande déception pour ses anciens amis, comme Michel Léris, et beaucoup d'autres, Marcel Jean, qui sont venus au vernissage dans l'espoir de la voir, et qui ne l'ont pas vue. Par contre, le lendemain, elle est venue à la galerie. C'est une galerie que j'avais rue de Penthièvre, qui s'appelait également 1900-2000. Et ma secrétaire m'a appelé en disant, il y a une dame qui est en train de regarder l'exposition. À mon avis, c'est Doramar. Je lui ai dit, passez-la moi au téléphone. Et elle m'a dit, je suis venu voir l'exposition. Vous avez très bien encadré les tableaux. Je suis très contente. Est-ce que je peux avoir quelques catalogues en plus? Évidemment, on lui a donné. Finalement, elle était très contente de l'exposition. Et au cours des rencontres que j'ai eues, des nombreuses rencontres que j'ai eues avec elle, à un moment, elle m'a posé une question bizarre. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai de moi de cette exposition? Vous exposez, vous allez vendre des tableaux qui m'ont jamais été payés. J'ai rien du tout. J'ai pris ça pour une demande peut-être pécuniaire ou de compensation et j'ai eu l'idée de lui dire « Je sais que vous êtes une très bonne photographe, pour vous compenser, je vous propose de vous acheter des photos. » Elle me dit « C'est d'accord, les photos sont cachées sous mon lit. À mon avis, je vaux autant que le prix d'un Man Ray, d'une photo de Man Ray. » Donc, je peux pas dire que ça a été un marchandage, mais ça a été des longues conversations pour la ramener à la raison et pour que finalement, au bout de plusieurs semaines, on se mette d'accord sur un prix. Elle m'a vendu, je pense, environ 90 photos, ce qui m'a permis de faire non seulement une autre exposition, mais de donner la priorité au Centre Pompidou pour qu'ils choisissent les photos les plus importantes et les plus historiques. J'en ai vendu à des musées américains et ensuite à des collectionneurs. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand elle m'a laissé rentrer dans l'appartement pour la première fois, j'étais un peu choqué parce que dans sa chambre, couchée, qui était bien rangée, il y avait une espèce de bibliothèque au-dessus du lit. Et le premier livre qu'on voyait bien, bien visible pour qu'on le remarque, à mon avis, c'était Mein Kampf de Hitler. Ça m'avait choqué, mais on n'en a jamais parlé. Finalement, c'est pas tellement mystérieux parce que au moment de conclure cette affaire de photographie qui a duré quand même quelques semaines pour qu'on se mette d'accord sur le prix, elle m'a quand même dit, bon, on est d'accord sur le prix, mais je ne vous les vends que si vous me dites que vous n'êtes pas juif. J'ai pas répondu et on a fait l'affaire quand même.
Vous deviez vous sentir extrêmement mal à l'aise ?
Très mal à l'aise, parce que je n'ai jamais menti de ma vie. C'était un peu la première fois que je mentais. Mais j'avoue que l'espoir de faire une exposition inédite, de faire redécouvrir ces photos, a pris le dessus sur mes sentiments. Et en plus, je dois avouer qu'on était en 1990, qui était une des pires crises de l'histoire de l'art. C'est grâce à Dora Maar que j'ai remonté la pente et que je suis toujours là aujourd'hui. Beaucoup de mes confrères ont malheureusement fermé à cette époque-là.
Moi, j'ai dit dans mon livre qu'au commencement, quand je l'écrivais, je pensais mettre comme titre « Les quatre vies de Dora Maar », parce que vraiment, elle a été une fille d'une famille, disons, très riche, bourgeoise, quand elle était petite et adolescente. Après, c'était une activiste de gauche. Et après, c'était toute cette période Picasso, évidemment. C'était la maîtresse de l'artiste le plus important du siècle. Et après, c'était une femme complètement isolée et qui est devenue à droite. Bon, il faut se rappeler qu'elle a été abandonnée par Picasso, qu'alors elle a eu cet épisode de folie, heureusement que c'était temporel, mais elle a été, disons, sauvée, non seulement par l'analyse de Lacan, mais surtout aussi par sa réclusion dans la peinture et dans la religion catholique. Je lui ai demandé, et les gens disent que c'est Lacan qui l'a fait, disons, retourner à la religion catholique. Elle m'a dit, non, je suis retournée simplement à la religion de mon enfance. Alors j'ai découvert aussi, en faisant ce livre, qu'elle a eu un père spirituel qui s'appelait Dom Jean de Montléon, qui était vraiment, on dirait, d'une église catholique intégriste, très conservatrice. En entrant en religion, en voyant ses pères, peut-être aussi, je ne sais pas, avec d'autres amitiés, elle est devenue à droite. En parlant avec elle, on n'a pas parlé de politique, elle voulait parler de théologie, figurez-vous, avec moi. Et moi, tout en étant catholique, comme tous les Espagnols, je ne suis pas croyante. Donc, ma conversation s'arrêtait à San Juan de la Cruz ou Sainte Thérèse, mais pas plus. Mais je n'ai pas vu, disons, une personne ultra-droite, comme on dirait aujourd'hui.
Elle fascine beaucoup les femmes parce que c'est un personnage un peu à la Camille Claudel ou à la Adèle Hugo qui ont été broyées par l'amour, broyées par la passion. Donc elle fascine toutes les femmes qui souffrent d'amour et qui souffrent d'être délaissées. Et elle est un peu leur image, leur icône. Sur sa tombe, moi ça m'a frappée, j'ai retrouvé des petits gris-gris qui étaient posés. Il y avait une sorte de Bouddha, Je pense qu'il y a des gens qui sont des adorateurs de Dora Maar.
Vous en êtes devenue une ?
Non, je crois pas. J'espère l'avoir comprise. J'ai de l'affection pour elle. Mais je ne suis pas devenue une adoratrice. Parce que je continue à ne pas aimer la vieille dame qu'elle est devenue.
Au cours des conversations, à un moment, je lui ai dit « Bon, vous n'aimez pas les avocats. Quand je vous parle de votre santé, vous me dites que vous n'aimez pas les docteurs. Mais est-ce que vous avez vu un notaire ?» Elle m'a dit « Non, j'aime pas les notaires non plus. » J'ai laissé un mot dans une commode et je lègue tout à la paroisse du 6e. La concierge qui m'avait vu tellement de fois et qui avait compris qu'à une époque j'étais très proche d'elle, m'a appelé un jour en disant... Elle m'a prévenu d'abord que Dora Maar venait de mourir, et qu'elle était à l'Hôtel Dieu, et qu'elle était dans un lit, et qu'elle n'avait même pas de vêtements. À ce moment-là, j'ai donné de l'argent à la gardienne pour qu'elle lui achète une robe noire, elle l'a habillée. J'ai quand même été à l'enterrement, où il n'y avait que 5 personnes. une voisine, la gardienne, Hélène Sekel, qui était conservatrice au musée Picasso, et moi. Évidemment, ce mot qu'elle avait laissé a disparu. D'après la concierge, à un moment, des commissaires-priseurs et des huissiers, après sa mort, ont forcé la porte de l'appartement et tout emporté. Donc, quand ils ont vu le mot, à mon avis, il a été à la poubelle.
Elle a eu et toujours une production artistique et jusqu'au bout. C'est ce qu'on voit dans la photo de l'atelier de Dora Maar pris par Jérôme de Staël. C'est qu'il y a des tas de tubes de peinture sur les tables, des pinceaux, des châssis. Elle a même transformé un châssis en croix. Il y a de la térébenthine, je ne sais plus. Donc il y a eu toujours cette production artistique jusqu'au bout. Elle vivait seule, mais c'était un choix de vie conscient. Et j'ai lu d'ailleurs qu'elle a dit « Mon destin est magnifique, quoi qu'il en semble ».
Pour vous dire, moi, Dora Maar, avec toutes les photos, les portraits qu'on a eus, c'est quelqu'un qui m'était un petit peu hermétique. Je ne suis pas sûre de plus le savoir aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que de travailler intimement sur son œuvre, sur sa trajectoire, sur les quelques indices, les quelques notes qu'elle a pu écrire, me permettent d'un peu plus comprendre ce que ça voulait dire d'être une femme photographe à la fin des années 20, la force qu'il faut pour s'affirmer face à Picasso, de décider de ne pas se marier. Mais elle choisit de dédier sa vie à peindre. Et il y a une sorte de droiture que j'aime bien. Une belle individualité, indépendante, une tête forte. Et je trouve que c'est une très bel exemple de figure féminine de ce XXe siècle. Pour tout ça. Plus que pour la femme qui pleure.
Victoria Combalia, Marcel Fleiss, Damaris Amao, Brigitte Benkemoun, Anne Carpentier, Gwen Strauss et Jérôme de Staël. Prise de son, Olivia Branger et Marcos Darras, mixage, Claude Niort, attaché d'émission, Pascaline Bonnet, documentation Anne-Lise Signoret, coordination Christine Bernard. Dora Maar, 1907-1997, Vers la lumière, un documentaire d'Émilie Chaudet réalisé par Christine Robert et Marie-Laure Ciboulet.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcaste partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture, une page préparée, enrichie et élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet, Juliette Testa et Thibaut Terragnan. Et dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.